toujours demain. Demain, tu trouveras l'amour. Demain, demain, toujours demain. Demain, la chance tournera. Demain, demain, toujours demain. Demain, la vie vous sourira. Demain, demain, toujours demain. Demain, on oubliera demain. Quand c'est qu'arrivera demain. Demain sera toujours demain. Oh, qu'ils sont nombreux les demains. Demain, c'est la terre promise. Demain, c'est là le paradis. Demain, demain s'éternise. Demain, fuit qui le poursuit. Demain, c'est la terre promise. Demain, c'est là le paradis. Demain, demain s'éternise. Demain, des courages aujourd'hui. Et bonjour, chers auditeuristes de Ryan Air. Et oui, demain, tout ira bien. Je vous assure, hein, c'est pas une blague. Hein. C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Bon, je vous avoue qu'il me l'a dit parce que j'étais un tout petit peu inquiète. C'était l'été dernier. On avait de plus en plus chaud et de moins en moins d'eau. Et je voyais les gens qui nettoyaient leur voiture au Karcher pendant que moi, je n'avais pas le droit d'arroser mon potager. Et puis, je repensais à cette pandémie. À ce moment où les avions avaient arrêté de voler, où l'intériorité se développait en chacun de nous et avec elle des prises de conscience, la conscience qu'on est tous reliés, qu'on cohabite avec d'autres êtres vivants qui ont eux aussi leur place, que nous, les humains, on fait un tas de trucs absurdes qui foutent bien la merde, comme par exemple de faire dépendre notre alimentation de produits qui viennent de l'autre bout du monde. Bref, à cette période, et avec ces prises de conscience dues à l'immobilité, et pour certains, au temps qu'on avait tout d'un coup pour méditer sur notre existence, j'ai eu l'espoir que les choses changent. Et je me disais que peut-être demain tout irait bien. Et puis tout a recommencé. Moi, suite à cette période, j'avais choisi de tout arrêter. Je faisais des spectacles dans toute la France et j'avais jamais le temps pour rien. J'ai arrêté pour prendre le temps de vivre et pour me relier au vivant et pour faire du circuit court de la culture. Oui, oui. Concentrer nos énergies, œuvrer là où on vit, revenir à une échelle qui me semblait plus juste au niveau de l'espace et du temps. Mais autour, tout est reparti. Donc je me suis un petit peu inquiétée. Et ce qui m'a rassurée, et me rassure encore, c'est de voir, d'entendre, de lire des personnes et des initiatives qui œuvrent pour un monde meilleur et qui y croient. C'est ça que mon petit doigt m'a dit. Et c'est ça que j'aimerais partager avec vous dans cette émission. Alors, je pourrais choisir de regarder tout ce qui dysfonctionne. Je le fais aussi parce que y a bien des choses à déconstruire hein, et des luttes à mener. Mais pour garder la force, la foi, l'énergie de me diriger vers des actions qui ont du sens pour moi, m'inspirer de gens qui y arrivent et qui y croient, ça me fait le plus grand bien. Si on ne croit pas que demain tout ira bien, ça risque pas d'arriver. Hein. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Il y en a qui disent qu'il vaut mieux prévoir le pire pour pas être déçu. Mais si on prévoit le pire, alors c'est le pire qui arrive. Bref, aujourd'hui, je vais essayer. Alors ça, c'est le bruit du soufflet de mon accordéon que je ferme et que je pose à côté de moi. C'est ma première émission, donc faudrait être... voilà, peut-être qu'il va y avoir des bruits de papier, de trucs que je pose et tout. Je vais essayer de faire au mieux. En tout cas, je suis très heureuse d'être avec vous. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous partager une découverte très importante pour moi. Il s'agit de Starhawk. Vous la connaissez ? Femme sorcière activiste aux longs cheveux blancs, coiffée d'un chapeau de cow-boy, américaine, elle a fait partie de nombreux mouvements antimilitaristes, antinucléaires et altermondialistes depuis les années 70. Elle a cherché à mêler militantisme et spiritualité. Car si changer le monde commence par se changer soi-même, les deux vont de pair.
Époque cruelle, dénuée de sens, dur de voir clair. Derrière les mascarades et les buées de sang, je me sens comme perdu au cœur d'une immense machine qui n'en a jamais eu et qui nous dénature. Mauvais pressentiment quand je pense au futur. Les yeux ouverts, l'horreur tente de me les crever, mais le plus dur reste à venir le jour où ce sera trop tard, où la surveillance sera absolue et nos prénoms seront des codes barres. Tout va de plus en plus vite, car pour eux le temps c'est de l'argent. Alors on oublie de vivre, c'est navrant, nous se craignons vite que rien ne comblera, car l'ombre s'est emparée notre monde. Mais on croit que ce qu'on voit ou ce qu'on veut bien nous laisser voir. Donc ouais, on est aveugle, ça me fait mal au cœur. Mais regarde, même nos âmes bug, au fond de nous c'est tourment. Car dehors c'est tourment, soumis à notre sort. On oublie que la vie est mouvement, que la force issue d'un idéal ou d'une volonté transcende, où les schémas établis, que les barrières sont dans nos crânes, qu'on est seul à pouvoir les virer, se libérer en laissant notre cœur s'émouvoir. Trop porté sur l'extérieur et à force vouloir être comme tout le monde, faisons quelqu'un. En fin de compte, on devient ce qu'on nous montre, au lieu d'être ce qu'on est. Pourtant ce mode de vie fait mal, mais on se laisse cogner. On subit un monde qui nous dépasse et qui nous replie sur nous-mêmes en nous laissant des traces. Alors je ferme les yeux pour ressentir la lueur, pouvoir faire le vide en moi afin d'être réceptive au bonheur. Faire changer le monde commence par se changer soi-même. Changer le monde commence par se changer soi-même. Changer le monde commence par se changer soi-même. Faire changer le monde commence par se changer soi-même. Changer le monde commence par se changer soi-même. Changer le monde commence par se changer soi-même.
Ce livre tente de relier le spirituel et le politique, ou plutôt d'accéder à un espace au sein duquel cette séparation n'existe pas, où les histoires de dualité que nous raconte notre culture ne nous vouent plus à répéter les mêmes vieux scénarios. Cet espace est obscur et à moitié oublié, mais en lui réside un pouvoir qui s'oppose au principe de domination sur lequel est basée notre société. Ce livre a pour premier sujet le pouvoir. Il parle des différences entre le pouvoir sûr et le pouvoir du dedans, des histoires et des formes de pensée qui véhiculent le pouvoir, de l'éthique fondée sur le pouvoir du dedans. Bien que ce parcours se fasse dans l'obscurité, il s'agit aussi de vision et d'action, c'est-à-dire de magie, de l'art de faire appel au pouvoir du dedans et de l'utiliser pour nous transformer, pour transformer notre communauté et notre culture. De l'utiliser pour résister à la destruction à laquelle ceux qui détiennent le pouvoir sûr sont en train de vouer le monde. Donc vous verrez qu'elle va y revenir souvent. C'est un extrait du prologue de Rêver l'obscur par Starhawk, un des livres fondateurs de sa pensée. Et vous verrez qu'elle parle souvent du pouvoir sûr et du pouvoir du dedans. Et c'est très important comme distinction, parce que des fois le mot pouvoir nous renvoie à quelque chose de négatif. Le pouvoir qu'on veut prendre, imposer aux autres, etc. Mais ça donc, elle l'appelle le pouvoir sûr. Et en fait, le pouvoir c'est quelque chose de très positif quand on trouve celui de dedans, c'est-à-dire qui est à l'intérieur de nous, donc notre force. Et ça, on en a besoin si on veut lutter contre le pouvoir sûr. Donc c'est fondamental de faire la différence. Je continue donc dans l'introduction. Longtemps après la conversion des habitants des villes au christianisme, les sorcières et les sorciers furent les femmes sages et les hommes sagaces des villages ruraux. Ils étaient herboristes, guérisseurs, conseillers dans les périodes de troubles. Leurs fêtes saisonnières établissaient des liens entre les individus, dans la communauté tout entière, avec la terre et ses ressources. Ce lien, cette connexion profonde, était la source de vie, humaine, végétale, animale et spirituelle. Sans lui, rien ne pouvait pousser. De son pouvoir venait la capacité de guérir, de prédire le futur, de fabriquer, de créer, de chanter, de faire naître des enfants, de construire la culture. Ce lien était érotique, sensuel, charnel, car les activités de la chair n'étaient pas séparées de l'esprit immanent à la vie. L'histoire de la civilisation patriarcale pourrait être lue comme un effort cumulatif pour briser ce lien, pour séparer l'esprit et la chair, la nature et la culture, l'homme et la femme. Une des plus grandes batailles de cette longue guerre de conquête se déroula au XVIe et XVIIe siècle, lorsque la persécution des sorcières détruisit le lien des paysans avec la terre, interdit aux femmes la fonction de guérisseuse et imposa la vision mécaniste du monde comme machine inerte. Cette rupture fonde les oppressions inséparables de race, de sexe, de classe et la destruction écologique. Donc voilà un deuxième extrait, toujours du prologue. Et voilà, ce que j'aime beaucoup chez Starhawk, c'est que elle veut nous donner des outils au présent pour arriver à affronter le futur. Et pour ce faire, elle va puiser dans le passé. Elle va s'intéresser à l'histoire aussi pour comprendre en fait d'où ça vient, comment c'est arrivé, à quel moment on a été coupé de nos racines et que du coup on a plus du tout senti le lien qui nous unissait à tous les éléments qui nous entourent et comment donc ainsi l'homme s'est permis de puiser abondamment dans les ressources de la terre par exemple et ne pas se rendre compte des conséquences, de pas s'en préoccuper en tout cas. Donc voilà, j'aime bien ce lien qu'elle fait entre passé, présent, futur. Donc je vais continuer. Un peu plus tard, elle écrit. Quand j'écris sur l'art sorcier et la déesse, donc ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'autrefois, il y avait des déesses pour chaque entité, la déesse de la terre, la déesse de la pluie, la déesse des vents, et donc de vénérer ces dieux et déesses, du coup ça nous mettait en lien, on craignait même la nature, on ne se croyait pas tout permis sur elle. Ça faisait un lien très naturel et instinctif que chaque être humain avait avec la nature. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de retourner à ça. Quand j'écris sur l'art sorcier et la déesse, j'aime parler de l'attachement, de la force et de la connexion. Et pas de l'horreur, de ce que nous faisons, et pas de ce qu'on nous a fait. Donc les bûchers, etc. Mais je me demande, n'est-ce pas seulement ma manière de chercher à éviter de souffrir ? Et là, son amie Lorraine lui répond. Tout cela, les histoires de torture et de rage, ça vient de l'obscur. Mais si tu racontes l'horreur sans recréer l'obscur, tu l'alimentes. Tu ne supprimes pas son terreau. Nous devons rêver l'obscur comme processus, rêver l'obscur comme changement afin de créer une nouvelle image de l'obscur. Car l'obscur nous crée. L'obscur. Alors là, il y a quelqu'un qui vient de rentrer, donc c'est Ryanair en live, c'est pour ça que vous avez entendu une porte s'ouvrir. Mais c'est normal, tout va bien. Donc elle parlait de l'obscur. Donc son livre s'appelle Rêver l'obscur. Donc ça aussi, c'est. Enfin, j'aime bien comment elle déconstruit chaque concept. Donc là, elle explique. L'obscur, c'est tout ce dont nous avons peur, tout ce que nous ne voulons pas voir, la peur, la colère, le sexe, la douleur, la mort, l'inconnu. La question de l'obscur est devenue un voyage. Comme notre conversation qui se déroulait pendant un voyage. Comment affrontons-nous l'obscur, nous qui sommes au bord de l'anéantissement ? Comment trouvons-nous l'obscur en nous ? Comment le transformons-nous ? Comment le possédons-nous comme notre propre pouvoir ? Comment le rêver en une nouvelle image ? Comment le rêver en actions qui changeront le monde et mettront fin aux contes d'horreur et à la série longue de leurs victimes ? Actions qui feront exister un monde où l'obscur est bienveillant et chargé d'un pouvoir favorable. Le pouvoir de l'invisible, le pouvoir qui vient du dedans, le pouvoir de la déesse immanente qui se tient lovée dans le cœur de chaque cellule, de chaque être vivant, qui est l'étincelle de chaque fibre nerveuse et la vie de chaque souffle. Voilà, donc le petit passage sur l'obscur. Oui, j'aime bien la manière de redonner sa valeur à chaque mot. C'est-à-dire qu'en fait, si on voit l'obscur que comme des choses à fuir, eh ben, on va pas avancer. En fait, si on veut pouvoir se confronter aux défis qui nous attendent, il faut qu'on aille rencontrer en nous tout ce qu'il y a. Et si on veut rencontrer la lumière, eh bien, il faut rencontrer l'obscurité. Bon, c'est pas nouveau, hein, ce que je vous dis. Mais j'aime bien la manière aussi qu'elle a de le décrire comme quelque chose de positif. L'obscur, c'est aussi la sexualité, c'est aussi c'est ce qui vient du bas-ventre, c'est l'invisible, c'est inconnu. C'est pas que ce qui nous fait peur, enfin. Voilà. Donc je continue. Pour moi, le voyage a commencé dans la désolation. Lorsque j'ai écrit les premières versions du premier chapitre de ce livre, j'étais hantée par des visions d'anéantissement, des images de villes détruites, de corps recroquevillés, d'un éclair brutal dans le ciel, et puis rien. Je ne pouvais pas penser à un ami, à ma famille, à des enfants, sans les imaginer morts. Ou pire, sans imaginer la longue et lente détérioration de tout ce que nous aimons. L'intérêt des contes d'horreur tient peut-être au fait qu'ils font monter le désespoir à la surface, qu'il nous force à l'affronter au lieu de le laisser nous miner souterrainement, de manière insidieuse. Cette désolation m'a poussée vers l'obsession de l'histoire, en particulier l'histoire cruciale des XVIe et XVIIe siècles. Je devais savoir comment cela nous était arrivé. Travailler sur cette période m'a aidé à mieux comprendre les relations entre la conscience et le pouvoir, à mieux saisir la réalité, c'est-à-dire les structures et les institutions à laquelle le pouvoir donne sa forme. Puis, pour moi, la question a cessé d'être « comment en sommes-nous arrivés là ?» elle est devenue « que pouvons-nous faire et comment ?» Ainsi, le voyage est devenu action. Penser à ces questions, parler et écrire à leurs propos ne me suffisait plus. J'avais besoin d'agir d'une manière plus directe. L'été 1981, plusieurs d'entre nous, venant de différents groupes de la communauté païenne, décidèrent de prendre part au blocus de la centrale nucléaire de Diablo Canyon, qui était en cours de construction près d'une faille géologique dans une zone écologiquement sensible de la côte californienne. Le blocus est devenu une expérience cruciale dans ma compréhension, non pas seulement de la théorie, mais aussi de la pratique réelle du travail spirituel et politique basé sur le principe du pouvoir du « dedans ». Toujours le même pouvoir du dedans, fondamental pour entrer en résistance. Le blocus de Diablo a été une initiation, un voyage à travers la peur, une descente dans l'obscur et un retour avec une expérience et une pleine capacité d'agir, qu'on pourrait appeler aujourd'hui « empowerment » en anglais, je crois qu'on dit « empouvoirment » même des fois en français, qui viennent du dedans. Donc cette capacité d'agir, elle vient du dedans. Une mort et une renaissance qui ont commencé par un travail de dépouillement et qui, à la fin, esquissent une promesse. Pour moi, ce voyage qui a commencé dans la désolation conduit maintenant à l'espoir et au sens de notre pouvoir. Telle a été mon expérience alors que j'écrivais ce livre. J'espère que la vôtre, lorsque vous le lirez, vous révélera votre propre pouvoir. Car personne n'est capable, seul, de transformer l'obscur en amour. Nous avons besoin les unes et les uns des autres pour cela. Nous avons besoin de tout le pouvoir que nous sommes à même, ensemble, de faire monter. L'époque n'est pas au réconfort et aux promesses. Les enjeux sont trop élevés. Nous sommes en train de jouer avec des formes de mort peut-être irréversibles, et nul ne peut encore savoir comment les choses tourneront. Donnons-nous la main, car nous sommes le cercle de la Renaissance. S'il doit y avoir un renouveau, il commence avec nous. Nous pouvons nous toucher, à travers ces mots, à travers ces pages. Nous pouvons connaître l'obscur et en rêver une nouvelle image. L'image de la vie, ami. L'image d'une source. Je vais vous mettre un morceau de Barbara.
Derrière la saleté, s'étalant devant nous, derrière les yeux plissés, les visages mous, au-delà de ces mains ouvertes ou fermées qui se tendent en vain ou qui sont point levées, plus loin que les frontières qui sont de barbelés, plus loin que la misère, il nous faut regarder. Il nous faut regarder.
ce qu'il y a de beau, le ciel gris ou bleuté, les filles au bord de l'eau, l'ami quand c'est fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient. L'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient. Par-delà le concert des sanglots et des pleurs et des cris de colère des hommes qui ont peur. Par-delà le vacarme des rues et des chantiers, des sirènes d'alarme, des jurons de charretiers. Plus fort que les enfants qui racontent les guerres et plus fort que les grands qui nous les ont fait faire. Il nous faut écouter l'oiseau au fond des bois, le murmure de l'été, le sang qui monte en soi, la berceuse des mères, la prière des enfants, et le bruit de la terre qui s'endort doucement. La berceuse des mères, la prière des enfants, et le bruit de la terre qui s'endort doucement. Il nous faut écouter. Il nous faut regarder.
Pendant que j'écris, les chats jouent sur mon bureau, se lèchent l'un l'autre, jettent mes papiers par terre ou se roulent pour dormir en sécurité dans leur univers familier. Nous ne pouvons pas nous sentir en sécurité comme eux. Les journaux décrivent ce qui arriverait si la ville était frappée par une bombe atomique. Ils parlent de pesticides dans l'eau potable, d'une alerte nucléaire causée par une erreur informatique, d'enfants rendus anormaux par des déchets chimiques. Il semble que le soleil décline sur le monde de chacun et chacune, que nous sommes proches de perdre ce qui ne pourra jamais redevenir nôtre, définitivement altéré. Nos actes de pouvoir semblent frêles comparés à ceux des pouvoirs de destruction. Il y a trop d'ennemis, trop de sites d'enfouissement de déchets chimiques, trop d'armes déjà en stock. Il y a trop de gens sans emploi, trop de gens sans espoir, trop de violeurs en liberté. Trop de ceux qui exercent de grands pouvoirs sont indifférents. Ils ne se sentent pas faire partie de ce monde. Donc, là, elle parle de l'origine du désespoir, mais... tout le livre est une quête de, au contraire, comment, à partir de cette sensation que tout est foutu, trouver au contraire une immense force à l'intérieur de soi, la relier à la force à l'intérieur de son voisin, de sa voisine, d'élargir, et de ça faire une grande force. Et elle donne des outils pendant tout son livre pour qu'on mette en œuvre cette grande force. Et elle dit, en fait, on peut très bien y arriver à ce que demain, tout se passe bien, tout aille bien, tout se passe autrement. Donc je continue. Je sais que je ne suis pas la seule à me laisser envahir parfois par le désespoir. Cette incertitude grandissante affecte chacun et chacune d'une souffrance personnelle. Nous n'avons plus l'assurance de laisser à nos enfants un monde meilleur, ni même un monde vivant. Et pourtant, les enfants doivent toujours être nourris, les chiens être promenés, il faut travailler. Nous élevons donc des défenses contre cette souffrance insupportable et nous continuons dans la torpeur et le déni. Le travail peut sembler vide, mais nous évitons soigneusement de nous questionner sur son sens et son utilité, même si nous sentons que quelque chose de profond et de doux manque à nos vies, à nos familles et à nos amitiés. Un certain sens du but, du pouvoir, est parti. Mais les enfants continuent à grandir autour de nous, aussi beaux que toutes les générations d'enfants. Et quand nous enfonçons une graine dans la terre, elle continue d'y faire pousser des racines et déployer tiges, feuilles, fleurs et fruits. Il y a encore des moments où nous voyons les processus de la vie continuer à se déployer, où nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que la vie est mue par un pouvoir plus profond que celui de la bombe et du fusil. Un pouvoir qui pourrait prévaloir si nous savions comment faire appel à lui. Le sujet de ce livre est cet appel au pouvoir. Un pouvoir basé sur un principe très différent du pouvoir sûr de la domination. Car le pouvoir sûr est finalement le pouvoir du fusil et de la bombe, le pouvoir d'anéantissement qui soutient toutes les institutions de domination. Or, le pouvoir que nous devinons dans une graine, dans la croissance d'un enfant, que nous éprouvons en écrivant, en tissant, en travaillant, en créant, en choisissant, n'a rien à voir avec les menaces d'anéantissement. il est à entendre au sens premier du mot pouvoir, qui vient du latin populaire podere, être capable. C'est le pouvoir qui vient du dedans. Le pouvoir du dedans.
J'ai voulu planter un oranger là où la chanson n'en verra jamais, là où les arbres n'ont jamais donné que des grenades, des goupillés. Jusqu'à dérire, ma bien-aimée, sur mon bateau, j'ai navigué, j'ai dit aux hommes qui se battaient, je viens planter un oranger.
Ça, c'est le bruit toujours de mon accordéon qui se ferme. J'avais envie de vous partager un extrait de cette chanson de Renaud sur une ballade nord-irlandaise qui fait référence au conflit en Irlande. Et je continue avec Starhawk. Donc elle vient de nous parler du pouvoir du dedans. Et elle continue en disant: si nous voulons survivre, la question devient: comment renversons-nous, non pas ceux qui sont actuellement au pouvoir, mais le principe même du pouvoir sûr? Comment donnons-nous forme à une société fondée sur le principe du pouvoir du dedans? Un changement de paradigme, de conscience, est toujours incommodant. Donc ça que j'aime bien, parce que tout son livre, c'est vraiment un appel à un changement de paradigme. C'est un appel, en fait elle dit, si on regarde pas le monde autrement, ça peut pas changer. Il y a une citation d'Einstein qui dit « le monde a été façonné par notre manière de le regarder ». Bon, je n'ai pas les mots exacts, mais... Et si nous voulons le changer, il faut changer notre manière de le regarder. Et notre pensée est créatrice. Et c'est vraiment ce qu'elle fait dans son livre, qui fait environ 400 pages. Hein. En fait, elle déconstruit plein de concepts pour nous aider à regarder les choses autrement et avoir accès à... Bah, toujours à notre fameux pouvoir qui vient de l'intérieur. Hein. C'est comment, en fait, nous déséduquer. Voilà. Donc, un changement de paradigme, de conscience, est toujours incommodant. Pour conférer une forme nouvelle au principe même du pouvoir sur lequel est basée toute notre culture, nous devons ébranler toutes les vieilles divisions. Les séparations confortables ne sont plus opérantes. Les problèmes sont plus vastes que ne l'impliquent les termes de religieux et politique. Ce sont des problèmes de connexion complexes. Car même si l'on nous a appris que les problèmes sont distincts, que le viol est distinct de la guerre nucléaire, que la lutte d'une femme pour l'égalité de salaire n'est reliée ni à celle de l'adolescent noir pour trouver un travail, ni à celle contre l'exportation d'un réacteur nucléaire vers un site de faille sismique près de volcans en activité aux Philippines. Toutes ces réalités sont formées par la même conscience qui modèle nos relations de pouvoir. Ces relations, à leur tour, engendrent notre système économique et social, notre science, nos religions, nos idées à propos des hommes et des femmes, notre approche des races et des cultures qui diffèrent de la nôtre, notre sexualité, nos dieux et nos guerres. Actuellement, elles préparent la destruction du monde. J'appelle cette conscience mise à distance. Car son essence est de nous faire nous voir nous-mêmes à l'écart du monde. Nous sommes à distance de la nature, des autres êtres humains, et même de certaines parties de nous-mêmes, oui. Nous voyons le monde comme constitué de parties divisées, isolées, sans vie, qui n'ont pas de valeur par elles-mêmes. Parmi les choses divisées et sans vie, les seules relations de pouvoir possibles sont celles de la manipulation et de la domination. La mise à distance est l'aboutissement d'un long processus historique. Il s'enracine dans la transformation, à l'âge du bronze, de cultures fondées sur la mer et la terre, dont les religions s'adressaient à une déesse et à des dieux faisant corps avec la nature, vers des cultures urbaines patriarcales conquérantes dont les dieux inspiraient et soutenaient les guerres. Donc on est passé de ces religions qui s'adressaient, où il y avait des déesses et des dieux qui étaient en lien total avec la nature, comme je vous l'ai dit précédemment, on est passé de ça vers des cultures urbaines patriarcales dont les dieux inspiraient et soutenaient les guerres. Yahvé de l'Ancien Testament en est le premier exemple. Lui qui promet à son peuple élu la maîtrise sur le règne animal et végétal et sur les autres peuples qui l'encouragent à envahir et à dominer. Le christianisme a approfondi cette séparation en établissant une dualité entre l'esprit et la matière qui identifie la chair, la nature, la femme et la sexualité avec le diable et les forces de l'enfer. Dieu a été représenté comme un homme mâle, masculin, non contaminé par les processus de la naissance, des soins nourriciers, de la croissance, de la menstruation et de la corruption. Il a été enlevé de ce monde vers un royaume spirituel transcendant quelque part ailleurs. Les valeurs de bonté et de vérité ont été retirées à la nature et au monde. Comme le dit Engels, la religion vide fondamentalement l'homme et le monde de tout contenu. Elle transfère ce contenu à un fantôme de Dieu distant qui lui-même alloue un peu de son abondance aux êtres humains et à la nature. Allez, je vous en donne un petit peu si vous voulez bien. Ça, c'était mon commentaire. Le retrait du contenu, de la valeur, sert de fondement à l'exploitation de la nature. L'historien Lynn White a affirmé que, quand les esprits contenus dans les objets qui avaient auparavant protégé la nature de l'homme se sont évaporés, sous l'influence du christianisme, le monopole effectif de l'homme sur l'esprit dans ce monde a été confirmé et les vieilles inhibitions concernant l'exploitation de la nature se sont effondrées. Donc voilà, avant on avait quand même certaines inhibitions, c'est-à-dire on n'osait quand même pas exploiter trop la nature parce qu'on la craignait. Et une fois qu'on a enlevé de chaque être vivant un esprit, quelque chose de sacré, et bien du coup, tout est permis, allez, feu vert. Les forêts et les bois n'ont plus été sacrés. Le concept de bois sacré, d'un esprit faisant corps avec la nature, a été considéré comme idolâtre. Mais quand la nature est vide d'esprit, la forêt et les arbres ne sont plus que des troncs, des choses à mesurer en stères, valables seulement pour leur rentabilité, et non pour leur existence ou leur beauté, ou même comme partie d'un écosystème plus vaste.
Aujourd'hui, c'est le plus beau jour, c'est la plus belle vie, c'est le plus grand amour sur la plus belle planète. Et aujourd'hui, c'est la plus belle minute, c'est la plus belle poussée, c'est la plus belle chute sur la plus belle planète, la plus belle planète. Et aujourd'hui, c'est la plus belle seconde, c'est la plus belle voie lactée, la plus belle ronde sur la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète. Et aujourd'hui, c'est le plus beau col, c'est le plus beau cordon, le plus beau bisphénol, le plus beau plomb placental. Béton, colostrum, ADN, uranium, OGM, homme, M, femme, butane, dioxyde, carbone. sur la plus belle planète, 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 la plus planète, la belle planète, belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète. Et aujourd'hui, c'est le plus beau moment, c'est le plus beau bébé, c'est la plus belle maman sur la plus belle planète.
Oh, pardon, excusez-moi, j'avais oublié de remettre mon micro. C'est la première émission. Je voulais enchaîner directement sur un texte, mais c'est raté. J'enchaîne quand même, faites comme si vous n'avez rien entendu. Imaginons que nos enfants, au moins, n'aient jamais connu un dieu qui se tient hors du monde, et que rien dans leur esprit ne soit réceptif au principe du pouvoir sûr. Que dès leur plus jeune âge, ils aient appris que les demandes, les plaisirs et les êtres les plus intimes de leur corps sont sacrés, parce que ces enfants ont été honorés par leurs parents. Ils ont été nourris quand ils avaient faim, tenus contre leur corps aussi bien de femmes que d'hommes. Imaginons que leur mère n'ait pas été séparée du fait de leur maternité, de l'entreprise et de l'activité du monde. Que leur père se soit aussi occupé du corps de leur enfant, avec la même tendresse que nous attendons des femmes. Qu'ils n'aient jamais été incités à séparer leur corps de leur esprit. Qu'ils n'aient pas appris à se voir eux-mêmes ou à voir leur corps et leurs excrétions avec honte. Que pour leurs parents, même la merde ait été quelque chose de sacré, quelque chose qui devait retourner au cycle de l'éternel retour. Quand ces enfants apprennent, ils s'assoient en cercle, ils bougent, dansent, explorent, posent des questions, apprennent à d'autres enfants ce qu'ils savent eux-mêmes. Quand ils grandissent et commencent à travailler, leur travail n'est pas séparé de leur vie, mais parce qu'ils ne peuvent pas avoir à l'esprit la valeur absolue d'une abstraction, comme le Dieu qui est abstrait, qui est quelque part ailleurs. Ils ne travaillent pas pour de l'argent, comme si l'argent était Dieu, parce que eux-mêmes ne sont pas étrangers au monde, ils ne peuvent pas avoir l'illusion que le gain de l'un se fait aux dépens de l'autre. Ils savent dans leur corps et dans leur cœur que ce qui va revient, que ce qui a été pris à la terre doit lui être retourné. Bien qu'ils sachent que chacun mourra, ils ne pensent pas que la vie aura une fin. Dans leur esprit, il n'y a pas d'arbitre cosmique pour siffler « Le jeu est fini !» Ils ne peuvent pas se tenir hors du monde pour le posséder et en tirer profit. Ils ne peuvent pas se séparer de la souffrance des autres. Ils sont le monde les uns des autres. Voilà, j'aime bien ce passage, il y en a plein des beaux aussi qui, voilà, qui permettent de rêver. Alors c'est sûr qu'il y aurait beaucoup de travail à faire, hein, parce que s'il s'agit de... Voilà, il faudrait réformer l'éducation, enfin on le sait, hein, c'est toujours pas une nouveauté que je dis là, mais voilà, je trouve ça important d'y rêver, et de se dire bah, pourquoi pas dans 2000 ans. Non mais voilà, mais même en fait dans nos foyers déjà, on peut faire quelque chose déjà au sein de nos foyers. Alors je vais vous lire un autre passage aussi qui donne de la force. Retrouver son pouvoir personnel nous donne le courage de demander un changement à la base du pouvoir de la société. Avoir surmonté notre terreur de l'anéantissement nous permet d'envisager sans vertige la possibilité réelle d'un anéantissement total, d'affronter le désespoir et la rage que nous cause la souffrance infligée par notre culture. Cela nous permet aussi de transformer cette souffrance en résistance active à la destruction, de créer avec cette souffrance une vision d'une nouvelle culture basée sur une autre source de pouvoir, de travailler pour cette vision, de nous risquer nous-mêmes à son service, même si ce travail semble désespéré et démesuré. En refusant la domination de la haine de soi, nous nous libérons de la solitude imposée et nous nous rendons capables de nous connecter aux autres, de mettre ensemble nos pouvoirs et nos désirs. Nous devenons gardiens de nous-mêmes, l'un et l'une de l'autre et de la communauté de vie. Voilà. J'aurais envie de vous lire tellement d'extraits. J'en ai dans le livre, là, j'en ai plein que j'ai surlignés, que j'ai lus 10 000 fois. Enfin voilà. Mais c'est tellement, en fait, elle dit tellement de choses. Donc là, c'est plutôt vers la première moitié, tout ce que je vous ai lu. En fait, c'est pour vous donner envie de le lire, de vous y mettre, vous aussi, à Starhawk. Après, elle a tout plein de chapitres où elle parle elle donne des vrais outils, des exercices sur comment fonctionner individuellement, comment affronter tout ce qu'elle dit là, pour y trouver de la force, affronter notre peur de demain. Et après, elle donne des outils en groupe. Et elle a même un chapitre sexualité et politique, alors où elle dit que voilà, la plus petite relation qui existe, c'est déjà à deux. Et donc c'est important de soigner ça. Et donc et la sexualité aussi, si on lui redonne, en fait, si on lui redonne, elle peut nous permettre d'accéder à notre pouvoir sûr, à notre obscurité aussi, à notre intériorité, au pouvoir qui vient du ventre, en fait. Et que, en fait, on doit pas se laisser enlever tout ça. On doit se réapproprier toutes ces choses. Voilà. Je voudrais faire un parallèle avec Camille Test. Donc, Starhawk, son livre, la première parution, c'était en 1982. Hein, donc, on est en 2023. Vous vous rendez compte, il y a 40 ans, elle était déjà en train de dire... Mon Dieu, je suis en stress de savoir comment va se passer demain. Donc, ils étaient déjà au courant. Et il y a un livre qui vient tout juste de sortir. Donc, j'aime bien le parallèle. Elle s'appelle Camille Test et c'est Politiser le bien-être. Collection sur la table. Et en fait, ça me plaît beaucoup parce que Starhawk, elle propose... Moi, j'ai pas dit l'édition de Révé l'Obscur, c'était Cambourakis. Donc, Starhawk, elle propose de... amener de la spiritualité dans le militantisme. Parce qu'elle dit, si on ne fait pas ça, nos combats ne vont jamais réussir. En fait, on doit travailler sur nous-mêmes et on doit l'instaurer dans les luttes. Et pour arriver, nous, à ne pas reproduire la même chose que la société dans nos petits collectifs qui luttent pour qu'on arrive en groupe à affronter nos démons communs, quoi. Et donc avoir de la force pour lutter. Et Camille Test, elle propose d'amener de la politique dans le bien-être. Donc j'aime bien, c'est dans deux sens différents. Voilà, elle dit c'est génial le bien-être, mais en fait ça conduit à rendre individualiste. Il y a tout un mouvement du bien-être qui ne se préoccupe pas des problèmes de société. Et en fait là il y a tellement urgence que d'accord c'est vachement important de travailler sur soi avant tout. Si on veut réellement que peut-être demain tout aille bien, il faut y aller, quoi. Là, il faut qu'on s'unisse, qu'on se mette ensemble et qu'on se mette debout. Et en plus, on a du pouvoir. Voilà, c'est la même chose que dit Starhawk. En fait, le problème, c'est qu'on n'y croit pas. Mais en fait, on peut complètement faire face. Donc voilà. Je vous lis un extrait de Camille Test. Avec la crise de 2008... La situation économique mondiale se détériore et le marché de l'emploi, déjà grandement affaibli, se dégrade encore. Bon, désolé, c'est encore bad news, mais bon, de toute façon, vous le savez. Hein. Je continue. Soumise à des logiques de rentabilité toujours plus exigeantes, les entreprises serrent la vis et les employés subissent. De leur côté, des structures de soins comme l'hôpital et des dispositifs de protection sociale comme les retraites remplissent de moins en moins leur rôle. Enfin, l'équilibre des écosystèmes ne pesant pas lourd face aux priorités croissancistes, la planète se trouve bientôt pillée et transformée en une décharge à ciel ouvert, au point de menacer la survie même des générations futures. Sans surprise, face à ces réalités créées ou amplifiées par les politiques néolibérales, la détresse des individus s'accroît. L'Institut de sondage américain Gallup montre, dans son rapport 2022 portant sur les émotions à l'échelle mondiale, qu'en 15 ans, les gens n'ont jamais été aussi malheureux. Mais grâce à sa rhétorique bien huilée, la culture néolibérale réussit un tour de force magistral, instillée en nous l'idée que ces circonstances ne sont pas la cause de notre détresse, donc toutes les circonstances énoncées plus haut, la crise économique, etc. Elles ne sont pas la cause de notre détresse, et donc il ne sert à rien de les combattre,
Mais non, si ça va mal, c'est de notre faute. Nous n'avons pas encore assez travaillé sur nous. » La tête dans le guidon de nos vélos d'appartement, nous continuons donc à pédaler jusqu'à devenir la version la plus aboutie de nous-mêmes, espérant ainsi qu'une fois celle-ci atteinte, ce qui n'arrivera jamais, tous nos problèmes se régleront. Quand nous relevons le nez de notre guidon, nous nous rendons bien compte que quelque chose dans ce système ne tourne pas rond quand même. Mais la planète qui brûle, c'est un problème dont nous ne savons pas quoi faire. Alors, à défaut de pouvoir changer l'ordre du monde, nous tentons de nous changer nous-mêmes. Nous voyons faire de la méditation pour calmer notre éco-anxiété, donc peur des problèmes écologiques futurs, je traduis. Donc nous voyons faire de la méditation pour calmer notre éco-anxiété plutôt que d'agir sur les causes du changement climatique. Un ou une extraterrestre arrivant sur Terre pourrait dire « Mais réveillez-vous, merde, mais faites la révolution !» Seulement, voilà, comme le survivaliste s'apprêtant à affronter seul l'effondrement, nous peinons à envisager l'action collective comme impossible. Aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, nous organiser ensemble pour forcer nos gouvernements à mettre fin à leur délétère politique néolibérale, ou à quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, n'est pas de l'ordre du réflexe, ou plutôt ne l'est plus. Durant la seconde moitié du XXe siècle, les individus changent leur rapport au collectif. Les grands idéaux sacrificiels ou révolutionnaires perdent en pertinence, de même que le sentiment d'appartenance à un groupe plus grand que soi, le pays, la nation, la classe sociale. Plus hermétiques qu'avant au discours politique, qu'ils regardent de loin ou avec ironie, les individus se désinvestissent des luttes collectives qu'ils sacralisent de moins en moins. C'est ainsi qu'entre 1950 et 2020, en France, le taux de syndicalisation passe de 30% à 11%, et que l'abstention électorale ne cesse globalement d'augmenter. Dans ce contexte hyper-individualiste, la logique du bien-être contribue sans difficulté à nous détacher encore davantage du réflexe de l'action collective. Voilà. J'avais envie de faire ce parallèle. Bon, il y a beaucoup de redites, hein, il y a les mêmes mots qui sont dits de plein de façons. Mais parce que, oui, voilà, ma recherche, moi, c'est vraiment ça. C'est chercher la force pour agir, m'investir, ne pas me décourager. Et des livres comme ceux-là, ben, je trouve que ça en donne. Donc là, elle démonte un peu tout le monde du bien-être, mais après, il y a tout un chapitre où elle dit qu'elle est prof de yoga elle-même, hein, l'autrice, donc en fait, il y en a besoin. Mais voilà, elle dit juste que c'est important de se rendre compte quand même que comme tout le capitalisme récupère toute chose, voilà, même Che Guevara qu'on voit en affiche partout dans le monde... eh bien sûr, il a sauté sur l'occasion du bien-être pour nous faire oublier de nous défendre et de résister. Donc à propos d'agir et tout ça, donc on est à Reillanne dans le 04, il y a une assemblée populaire qui vient de se créer, qui a lieu, je pense qu'il y en a eu deux jusque-là, donc ça va avoir lieu une fois par mois, je pense. L'idée, c'est de se réunir avec sa chaise, chacun ramène sa chaise sur la place, et de parler de tout ce qui ne nous convient pas, et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, quoi, ensemble. Voilà. Il y a aussi les Soulèvements de la Terre. C'est une association nationale, donc qui a été pas mal... L'État a essayé de les empêcher d'exister parce qu'ils faisaient des actions un petit peu radicales. Enfin, ils n'ont jamais tué personne. Par contre, il y a eu un mort dans un de leurs mouvements, hein, que la police a, ben voilà, qui a été tué par la police. Et donc, il y a une antenne à Fort-Calquier. Ah, il paraît qu'on n'a pas le droit de dire « eux » à la radio. Donc voilà. Erreur, bip bip. du coup, ah, je l'ai encore fait. Ah bah voilà. Alors, allez voir les Soulèvements de la Terre et il y a une antenne à Fort-Calquier. Bon, si vous voulez des infos, vous pouvez m'écrire sur lucie.botivo@protonmail.com. Il y a aussi un livre qui est chouette qui s'appelle Écotopia de Ernst Kallenbach et qui propose une utopie possible, un monde où tout se serait passé autrement. Je vous le propose vivement. Je vous le conseille. Pour terminer, j'arrête pas de dire maintenant je m'en rends compte. J'espère que je l'ai pas fait trop depuis le début de l'émission.
Pour terminer, je vais vous lire... je l'ai encore fait. Bon, ben maintenant que je l'ai remarqué, je vais toujours le remarquer. Il va vraiment falloir que je fasse attention. Vous me direz par mail, tu as dit à telle minute, bip, bip, bip. Donc le dernier extrait, c'est ce sur quoi j'aurais envie de terminer, parce que ben, il n'y a que ça qui compte dans le monde et rien d'autre. Toutes les choses sont interconnectées. Tout est relation. Toute relation devrait être une relation d'amour. L'amour de soi et des autres. L'érotisme, l'amour qui transforme, l'amour comme affection. L'amour joyeux pour les myriades de formes de la vie en évolution et en changement. Pour le séquoia et la libellule éphémère, pour la baleine bleue et l'escargot, pour le vent, le soleil et la lune qui croît et celle qui décline. Un amour solidaire de l'enfant cambodgien, du réfugié haïtien, du fermier salvadorien, de l'adolescent sans repos du ghetto. Un amour pour le monde tout entier, éternellement en train de se créer lui-même. Un amour pour la lumière et la mystérieuse obscurité, et un amour en colère contre tout ce qui diminuerait la beauté indescriptible du monde. L'amour connecte, l'amour transforme. En aimant le monde pour ce qu'il est, et pour notre vision de ce qu'il pourrait être, en aimant les créatures du monde, y compris nous-mêmes, en protégeant le torrent, en ramassant les ordures à nos pieds, nous pouvons transformer les choses. Nous pouvons nous réapproprier le pouvoir de donner forme à nous-mêmes et au monde autour de nous.
Crois-tu avoir le temps de discuter, de disputer, de rechercher à t'imposer ? Crois-tu seulement avoir ce temps ? Crois-tu avoir le temps de t'énerver et d'exploser, d'abandonner et de pleurer ? Que te dit ton cœur à présent ? Tu as le temps de donner, redonner, pardonner, embrasser. En un mot, tu as seulement le temps d'aimer. Tu as le temps de lier, relier, concilier, enlacer. En un mot, tu as seulement le temps d'aimer. Crois-tu avoir le temps de reprocher, de regretter et d'espérer l'autre passé ? Crois-tu seulement avoir ce temps ? Crois-tu avoir le temps de t'en souffrir jusqu'à haïr et le maudire ton avenir ? Que te dit ton cœur à présent ? Tu as le temps de donner, redonner, pardonner, embrasser. En un mot, tu as seulement le temps d'aimer. Tu as le temps de lier, relier, concilier, enlacer. En un mot, tu as seulement le temps d'aimer. Crois-tu avoir le temps de ruminer et de penser et repenser à te venger ? Crois-tu seulement avoir ce temps ? Crois-tu avoir le temps de manœuvrer, de comploter, de diviser, de détester ? Que te dit ton cœur ? À présent, tu as le temps de donner, redonner, pardonner, embrasser. En un mot, tu as seulement le temps d'aimer. Tu as le temps de lier, relier, concilier, enlacer. En un mot, tu as seulement le temps d'aimer. Tu as le temps de donner, redonner, pardonner, embrasser. En amour, tu as seulement le temps d'aimer. Tu as le temps de lier, relier, concilier, enlacer. En amour, tu as seulement le temps d'aimer. Tu as le temps de donner, redonner, pardonner, embrasser. En un mot, tu as seulement le temps d'aimer. Tu as le temps de lier, relier, concilier, enlacer. En un mot, tu as seulement le temps d'aimer.
Merci, Yor Pfeiffer. C'est un extrait de son album « Envole-toi ». Et je voudrais remercier Ryanair et toutes les personnes qui œuvrent pour que cette aventure soit possible. Je voudrais vous inviter, si vous voulez proposer une émission ou juste vous investir dans la radio, c'est aussi possible. Et si vous voulez me faire des retours ou me proposer des choses pour mon émission, vous pouvez m'écrire sur lucie@protonmail.com. Je vous remercie beaucoup et je vais terminer par un texte de Virginie Despentes. À tout à l'heure.
J'écoute les gens de mon âge parler des gens qui ont 20 ans aujourd'hui et je les entends dire, comme toutes les générations avant eux, ils désirent changer le monde. Sur le ton blasé et serein de ceux qui en ont vu d'autres, de ceux qui savent comment ça se passe. Mais je peux témoigner, ma génération ne voulait pas changer le monde. Certains d'entre nous le désiraient, mais ma génération n'a jamais voulu changer le monde. Elle y croyait trop, à ce monde. Et elle croyait à tout ce qu'on lui disait. Toutes les générations n'ont pas voulu changer le monde. À toutes les générations, on n'a pas échu le devoir de changer le monde. À ma génération, on n'a jamais dit, avant même qu'on sache lire, « Si vous ne changez pas le monde, vous allez tous crever ». Ils sont gender fluides et ils sont pansexuels, ils sont racisés ou solidaires des racisés. Ils ne veulent plus être enfermés et définis par la misère et l'injustice. Ils sont chamans, ils sont sorcières. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui n'est plus ma honte, ni ma culpabilité, ni ma rage, ni mes keufs intérieurs, mais bien de me rendre capable de leur dire « tout est possible ». À commencer par le meilleur. Et c'est une affaire de désirer autre chose. Je choisis de les croire. Quand ils disent qu'ils veulent le sauver, ce monde. Je choisis de croire que nous ne savons rien de ce dont seront fabriqués les jours à venir. Je choisis de croire que, quand les plus puissants nous répètent à longueur de journée, nous savons tout de l'avenir, car nous connaissons le passé, il n'y a pas d'alternative. Les choses sont comme elles sont, parce que c'est dans la nature humaine d'en arriver là. C'est ainsi que Dieu l'a voulu dans son immense sagesse. Et s'il y a cruauté gratuite et injustice et grand saccage, c'est que la cruauté, l'injustice et le saccage font partie du réel. Et ils disent, regardez les animaux. Et chaque fois qu'ils les regardent, c'est pour observer comme ils tuent. Alors moi aussi, je regarde les animaux qui tuent et j'observe. Je ne vois pas leurs camps de migrants, je ne vois pas leurs frontières. Je ne vois pas d'éléphant barbeler son terrain pour ne jamais y voir de zèbres, parce qu'il a décidé que les zèbres, ça ne devrait pas exister. Je ne vois pas les animaux enfouir leurs déchets nucléaires, alors je me demande, que dois-je comprendre des animaux dans nos histoires humaines ? La douceur est utile. La douceur et la bienveillance sont les notions les plus antinomiques avec le système qui nous opprime. La douceur et la bienveillance, c'est le contraire de l'exploitation capitaliste. Te demander la permission, me demander si je consens. La douceur et la bienveillance, c'est ce qu'on ne trouve pas sur les marchés. C'est ce qu'on ne trouve pas dans l'armée. C'est ce qu'on n'enseigne pas dans les polices. Toutes les propagandes me traversent. Toutes les propagandes parlent à travers moi. Rien ne me sépare de la merde qui m'entoure, rien, sauf le désir de croire que ce monde est une matière molle, que ce qui est vrai aujourd'hui peut avoir disparu demain, et qu'il n'est pas encore écrit que cela soit une mauvaise chose.
Petit générique de fin artisanal pour conclure. Je vous embrasse, à bientôt. T'as beau pas être beau, wow, wow, monde de cinglé, je t'ai pas beau, pas être beau. Wow, wow, monde de cinglés. J't'ai dans la peau, oh, 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 oh. J't'aime, j't'aime, j't'aime.